From the widest landscape on the highest mountains to the smallest parking space on the tightest school run. With Jeep Renegade, legendary adventures come neatly packed. For as little as £255 a month plus a single initial payment of £255. Jeep Renegade. Legends aren't born, they're made. Visit jeep.co.uk. Personal contract hire. Offer available in the Jeep Renegade Night Eagle range. 48 months, 6,000 miles per annum. Valid until 31/03/20. Subject to availability, T's and C's apply. Leases.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan Macardy, on est ensemble jusqu'à minuit. Voilà pour le football français, on a fait le tour. Place maintenant au football étranger. Mais on va parler de footballeurs français à l'étranger, de footballeurs français en Espagne. Salut Fred Hermel.
Hola chicos.
Comment va?
Salut Fredo.
Salut Fred.
J'ai vu un match important aujourd'hui.
T'as vu la victoire du Real Madrid sur l'Atlético de Madrid. 1-0, Benzema, 13e minute, 13 points d'écart désormais. Bye bye l'Atlético, qui ne reverra plus, mais ça on le savait déjà. Le Real, cette saison en Liga. Mais Fred, hier, on voulait prendre le temps de parler d'un Français qui est en train de s'imposer, ça y est, au Real. C'est Ferland Mendy. Et il se trouve qu'il était décisif aujourd'hui.
Bah oui, parce que Ferland Mendy a été tout simplement le meilleur joueur du match, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a été d'un point de vue défensif. Alors déjà, on va expliquer une chose. C'est un derby et ce n'est pas Marcelo, légende du club, vice-capitaine qui a joué. C'est Ferland Mendy. Donc c'est fort comme choix de Zidane, parce que mettre Marcelo sur le banc contre l'Atlético à domicile. Faut être quand même sûr du choix et de son remplaçant quand même. Hein.
Bien sûr.
Et donc il y avait une sacrée pression sur Ferland, qui a fait un match brillantissime, qui a physiquement il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les allers-retours qu'il fait sur son côté gauche, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il fait un travail défensif que Marcelo n'a jamais fait de sa vie. Et encore moins depuis qu'il a dépassé la trentaine. Il est nickel défensivement et puis offensivement, on lui reprochait de pas être toujours très précis dans ses centres, sauf que celui qui fait à la 56e minute, très belle ouverture, très belle passe de Vinicius qui fait une bonne entrée pour Ferland Mendy côté gauche qui centre magnifiquement pour Karim Benzema qui jaillit tel un numéro 9 qu'il est et là du plat du pied droit. Première touche de balle, voilà. Benzema bat au black parce qu'au black de toute façon t'as pas intérêt à réfléchir, t'as pas intérêt à contrôler parce que sinon il arrête.
Et il la touche en plus.
Et il la touche. Et en plus, il la touche, c'est vrai. Donc, et d'ailleurs, Zizou disait que ce qu'il avait beaucoup aimé dans ce but, c'était d'avoir été capable de construire une si belle action face à une équipe aussi forte défensivement. Parce que l'Atlético est l'équipe qui va moins bien. Mais enfin, je peux te dire que Liverpool, ils vont pas gagner 5-0 contre eux.
Hein. Ouais, t'as raison.
Mais parce que c'est vraiment une équipe.
Ils ont fait un bon match, Fred, l'Atlético.
Tiens, Fred, attends, on va parler
de limité devant.
Bah oui, surtout que Morata se blesse en plus, leur seul numéro 9 valide.
Attends, avant qu'on parle de l'Atlético également, je veux qu'on écoute une réaction que tu as recueillie après le match, celle de Raphaël Varane, qui parle de Ferland Mendy. Et je veux votre avis, messieurs Kevin et Jonathan, sur l'évolution de ce joueur.
Nous, on l'encadre bien. Après, on fait en sorte qu'il se sente bien dans le vestiaire, dans le groupe. Il parle pas encore trop espagnol, mais voilà, on s'occupe de lui avec Karim notamment. Donc, non, c'est très bien. Après, il est en train de confirmer son potentiel. Son point fort, c'est défensivement. Après, il a un physique aussi qui lui permet d'enchaîner les efforts. Et il fait du bien à l'équipe. Faut qu'il continue comme ça. En tout cas, il confirme tout son potentiel.
Ça va, il est sous bonne protection également.
Il a un physique qui lui permet de multiplier les efforts.
Ouais.
Elle est là, la phrase.
Mais c'est sa qualité première en fait. Ferland Mendy, le Ferland Mendy qu'on connaît, qui était excellent au Havre et qui a éclos à Lyon, c'est un joueur qui, par rapport à cette tendance des latéraux modernes, qui lui défensivement, il est fiable. Il est fiable. Voilà. Je trouve qu'il sait très bien s'aligner avec sa charnière. Il est très intelligent dans ses placements. C'est avant tout un défenseur. Et il a un coffre qui est assez incroyable. Alors, il peut encore progresser, je pense, tu vois, dans les 30 mètres adverses, où parfois il est parfois encore un petit peu brouillon. Mais ce qui est vachement intéressant avec lui, c'est qu'en plus d'être très fort défensivement, il a quand même un bon pied gauche, je trouve. Sa qualité de centre, ça s'invente pas, ça s'achète pas. Lui, il l'a. Maintenant, c'est juste, être un petit peu plus lucide dans les 30 derniers mètres, et ça deviendra un des meilleurs latérales gauches au monde.
C'est une très bonne nouvelle.
Oui, c'est également début de saison. cette lucidité-là, elle a, c'est plus la même qu'au début de saison. Hein. Franchement, hein. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière entre deux portes à Valdebebas, et on a discuté un petit peu off, comme on dit. Et je lui ai dit, mais j'ai vraiment le sentiment que t'es beaucoup plus à l'aise, t'es moins impressionné par le Bernabéu. Bah, il m'a dit,
ouais, il faut prendre la mesure hein, quand tu veux.
Il se lâche maintenant, il est là depuis 6 mois. Et donc, moi, je trouve que c'est une merveilleuse surprise. Certains s'étaient foutus de ma gueule, pas vous les enfants, mais quand j'avais dit que Mendy allait jouer avant Noël plus de matchs que
Marcelo,
c'est déjà le cas. Ouais. Mais là, maintenant, là.
Après, c'est la bonne saison pour arriver.
Kevin, il y a quand même une chose dans ton interview de Raphaël Varane qui, pour moi, est ultra importante et très intéressante. C'est quand il dit, et pour l'avoir vécu en tant que joueur français à l'étranger, quand tu arrives, tu connais pas la langue, tu arrives dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, et tu as deux joueurs qui sont français, qui peuvent t'accueillir, qui sont des cadres du vestiaire, qui peuvent t'accueillir, qui peuvent, voilà, on va dire, comment dire, pas te baby-sitter, mais presque, tu vois.
Te
coucouner, comme tu dis. Bah, franchement, pour lui, c'est vraiment une situation. Mais, et en plus,
c'est pas l'accueil de Griezmann à Barcelone.
Voilà, exactement. Non, et en plus, t'as l'entraîneur, t'as Zidane comme entraîneur.
Parce que moi, je me souviens de Karim Benzema, quand il arrive à Madrid, 21 ans.
Et Anelka, alors.
La maison, il dort l'hôtel, il pleurait le soir dans sa chambre. Hein.
Et Anelka.
Ah ouais.
Ah bah non, mais c'est vrai, bah, il me l'a déjà dit, Karim. Ouais. Parce que c'est pas facile de quitter sa famille, de quitter son pays.
Il a quitté son club de formation. Bah voilà, Mendy avait déjà fait une étape en partant du Havre, en allant à Lyon.
Oui, mais tu sais, partir loin de son pays.
Ouais, il n'y a pas de souci.
Fred, t'as pleuré, toi, tes premières nuits à Madrid ou pas?
Oh bah oui.
C'est vrai?
Je suis arrivé, j'avais 22 ans. D'un côté, t'as le rêve, d'un quelques jours, t'as le rêve, tu réalises ton rêve, etc. Puis à un moment, t'es confronté à la solitude.
Et oui, c'est ça.
Moi, j'avais pas de thune en plus, donc.
Alors que maintenant.
Mais Mendy, ça va au niveau de la thune.
Non, mais tu sais, l'histoire, ça joue à pas grand chose, hein. Moi, j'arrive au mois d'octobre, au mois de décembre, j'ai plus de thune. Je suis à 15 jours de devoir rentrer en France et il n'y a pas cette histoire-là, hein. Ça s'est joué à une copine qui m'a
pris. De Zizou qui arrive à Madrid.
À l'époque, quelques milliers de pesettes. Voilà.
Voilà pour le cas Fernand Mendy. Tiens, parlons également
du. C'est top pour les bleus. Hein.
Voilà, top pour l'euro, et pour les bleus. Et la jaquette sélection de garçon, on a une vraie solution à gauche, hein, latérale. Ouais. Même si on a déjà des. Quoique, non.
Oh, pour moi.
Ben ouais, non, parce que du coup, là.
Non, mais pour moi, Lucas, c'est
Lucas,
le meilleur.
Lucas,
c'est central.
Pour moi, c'est le meilleur défenseur central français.
On est d'accord.
Oui, mais les gars, mais moi je pense Deschamps. Et parlons Deschamps, les gars. Deschamps pour Deschamps. Lucas Hernandez est à gauche.
À moins qu'il joue en
3-5-2. Raphaël Varane est dans l'axe avec Clément Langlais ou éventuellement Samuel Umtiti plus tard.
Ouais, mais Langlais,
du coup là, on a une vraie doublure, voire lui en numéro 1 à gauche. Écoute, vu que Lucas ne joue toujours pas.
Vu que Langlais ou Umtiti, c'est pas clair au Barça en ce moment. Une défense avec Mendy à gauche, une charnière centrale, axe gauche, Lucas, axe droit, Varane.
Mais les gars, Lucas, ça fait des mois qu'on a pas vu jouer.
Ça a de la gueule quand même.
Lucas, ça fait des mois qu'on a pas vu jouer.
Non, mais surtout, voilà. Un petit truc par rapport à Mendy, c'est-à-dire que Deschamps regarde beaucoup le nombre de minutes disputées dans chaque. Par chaque joueur dans
son équipe. À part pour Giroud.
Sûr de ça,
là, il va jouer. En tout cas, il va jouer beaucoup, beaucoup.
Mais Deschamps, il regarde pas ça, Fred. T'inquiète.
C'est important.
Deschamps, il regarde pas les minutes jouées. Sinon, il y a plein de joueurs qui seraient pas en bleu.
Fred, un Zidane assez honnête. Bon, il gagne 1-0 après une première période ratée. Ouais. Il a reconnu qu'il s'était planté.
Oui, parce qu'en fait, il met la même tactique et le même système que lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético, c'était il y a 3 semaines. C'est-à-dire qu'il joue avec en 4-5-1 avec Benzema devant, mais un milieu à 5. Ouais. Donc avec Isco, avec Valverde, avec Modric, avec Kroos et avec Casemiro. Et en fait, ce qui avait marché il y a 3 semaines ne marche pas. Et là, moi, ce que j'aime chez Zidane, c'est que c'est pas du genre à dire c'est comme ça, ce sont mes joueurs.
Réaction tout de suite.
Il s'est planté. À la mi-temps, il change. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient en 4-3-3. Il fait sortir Kroos et il fait sortir Isco. Faire sortir Kroos et il en était malade. Hein. Zidane, il dit pour moi, c'est terrible de devoir faire sortir deux joueurs et de montrer du doigt deux joueurs alors que c'était pas de leur faute. C'est parce que moi, je m'étais planté dans mon système.
Ouais,
et c'est vrai qu'il a vachement ouvert le jeu avec Lucas Vázquez d'un côté et Vinicius de l'autre. Mmh. Et c'est cette ouverture qui ouvre des espaces et qui permet le but du Real. Donc, moi, quand on dit que Zidane n'est pas un grand tacticien, voilà.
Ouais, il a une très belle lecture du match. Il réagit super bien.
Et il y a un joueur que Zidane a fait éclore pour moi. Qui pour moi est un phénomène.
C'est Valverde.
Valverde, mais c'est
impressionnant.
Tu sais, je te l'ai déjà dit.
Ça coûtait 0 euros. Hein,
voilà.
Quand il voulait faire venir un Pogba à 140.
Pogba encore, mais il voulait faire venir Van de Beek. Vous savez que j'aime bien les Néerlandais. Mais Valverde, il a deux Van de Beek dans chaque pied. Hein. Ouais. Magnifique.
Mais surtout, moi, ce qui me plaît chez Valverde, c'est le coffre qu'il a. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs en Real comme Mendy, comme Valverde, comme Casemiro, qui ont un coffre. C'est-à-dire une résistance physique et pulmonaire qui est impressionnante. C'est-à-dire que c'est des mecs qui
compensent les vieux
à fond pendant 90 minutes.
Il compense un peu les vieux, je trouve.
Oui, bah ils sont là pour ça. C'est-à-dire que t'as pas besoin de les faire tourner. Un Modric, tu le fais tourner. Valverde, t'as pas besoin de le faire tourner beaucoup.
Non, c'est clair.
Mais moi, je trouve que alors le Real Madrid, ça y est, là, le Real a 6 points d'avance sur le Barça qui reçoit l'Eventé demain.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un derby. C'est en général un derby, c'est 0-0. Hein. C'est, le Real n'avait pas gagné en Liga contre l'Atlético chez lui, donc à Bernabéu, depuis 2012. C'était pas évident. Hein. Et donc un match encore un match compliqué que le Real a su gérer. Alors ça n'a pas été le plus beau match de la saison. La première période était assez ennuyeuse, mais voilà, c'est des matchs comme ça qu'il faut remporter. Et en plus là, jeudi, il y a un très beau match de coupe. En quart de finale de coupe, le Real reçoit, ça sera un match sec, la Real Sociedad, qui est une équipe qui lui convient beaucoup mieux parce que le Real prend beaucoup plus de plaisir face aux équipes offensives et ça va beaucoup mieux face à une Real Sociedad que face à un Atlético. Et de l'autre côté, on en a quand on en reparlait, vous avez un magnifique Athletic Club de Bilbao contre le Barça qui est la plus belle affiche de ce Donc il se passe il y a vraiment de beaux matchs en ce moment en Espagne. J'aimerais qu'on dise un mot aussi parce que, vas-y. On l'a écouté, c'est Raphaël Varane. C'est-à-dire que Varane, le match qu'il fait encore aujourd'hui, c'est celui d'un patron. Il est même meilleur, il est même devenu meilleur que Ramos. Parce que il a pas ces envolées lyriques un petit peu que Ramos, par moment, un coup de temps en temps, ça le démange, il a envie de marquer un but.
Ouais, il en loupe deux en début de match d'ailleurs.
Exactement. Mais Varane est aujourd'hui d'une sûreté et d'une maturité, d'une tranquillité, d'une sérénité qui fait extrêmement plaisir et qui est de très bon augure.
Et je rappelle que le Real n'a plus perdu un match depuis le 19 octobre dernier. Voilà.
Donc 21 matchs sans défaite. Mais et le 19 octobre, le Real Madrid avait perdu à Mallorca et Zidane avait failli être viré 3 jours après.
Ouais,
s'il ne gagnait pas à Galatasaray. Et le Real Madrid, finalement, n'a perdu que 2 matchs cette saison.
C'est un peu le Thierry Loret de Madrid.
J'ai commenté sur ce qui aurait pu être le dernier match de Zidane à Madrid, c'était le Galatasaray-Real.
Et Hazard, il revient.
Les gars, stop.
Prochain match. Ok.
Non, Hazard a repris l'entraînement. 3 secondes. Pas encore à fond, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il soit titulaire.
Ok.
Merci Fred. Excellente soirée à toi. Très vite dans l'after, bien sûr. Dans un instant, arrive dans l'ordre Paulo Breitner et Julien Laurence. Ça faisait longtemps, tiens, Julien Laurence.
On dirait du resto.
Et on est ensemble jusqu'à minuit. On dirait du resto ou du trottoir du resto. À tout de suite.
RMC. L'afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz, bien sûr. Il nous reste, une grosse dizaine de minutes pour partir en Angleterre. Mais d'abord, faire une halte en Allemagne. L'Allemagne, Deutschland, représentée dans l'after par Paulo Breitner. Bonsoir Paulo.
Bonsoir Nico, bonsoir messieurs.
Salut Paulo.
Paulo, alors évidemment beaucoup de choses à dire avec toi. Tu as beaucoup bossé ces 17 prochains jours, comme d'hab. Je rappelle la date, 18 février, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, match aller, 8e de finale de Ligue des Champions. Donc on a bien sûr un œil à viser avec Paulo sur les performances du Borussia plus qu'à la normale, quant à normal. Et il se trouve que le Borussia a fait exactement comme le PSG, s'est imposé 5-0, mais à 11 contre 11 face à l'Union de Berlin. Comment tu juges l'évolution du Borussia depuis le début 2020, Paulo ?
Écoute, ils avaient un début de championnat relativement facile et important pour monter en puissance, puisqu'ils commençaient à Augsbourg, puis deux matchs à domicile contre Cologne et l'Union de Berlin. 5 buts à chaque fois, donc ça, offensivement, c'est très très intéressant. Et puis défensivement, 3 encaissés contre Augsbourg, 1 contre Cologne, et puis aucun contre l'Union de Berlin. À mon avis, à ce niveau-là, c'est un paramètre à prendre en compte. Maintenant, il y a 2-0 à la mi-temps là contre l'Union de Berlin, qui était évidemment une équipe beaucoup plus faible que Dortmund. Le problème, c'est que si tu veux, quand tu vois le début de deuxième mi-temps, t'as toujours un côté lymphatique au Borussia Dortmund, comme s'ils ne voulaient pas appuyer sur le champignon, et ça peut leur jouer des tours. Ils ont encore perdu quelques ballons, et Favre a décidé encore une fois à jouer en défense à 3 avec Piszczek, et puis rappelons-le, Zagadou est quand même rentré à l'heure de jeu, oui. Ce qui était intéressant. Mais, si tu veux, moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça marche de mieux en mieux devant. Alors, évidemment, on parle de Hollande dans tous les sens, qui fait encore un doublé contre l'Union et il provoque un penalty. Moi, je note surtout qu'il vient rechercher aussi les ballons aux 30-35 mètres. C'est-à-dire, c'est pas juste un joueur qui prend la profondeur tel qu'on a parlé ou qui reste au point de pénalty. Il n'est pas encore à 100%, faut pas l'oublier non plus. Même lui le dit, donc c'est intéressant. Sancho, moi, m'impressionne beaucoup en ce moment. Marco Reus aussi. Hazard a été, puisque Hollande était titularisé, Hazard a été un peu le sacrifié. Donc j'attends de voir tout ça, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une forme d'euphorie autour du Borussia Dortmund et qu'ils se sont pas trompés avec l'arrivée de cet attaquant. Et tout le monde, en gros, est vraiment content parce que ça n'a l'air de rien, mais le Borussia Dortmund redevient quelque part un potentiel candidat au titre au-delà de la rencontre, évidemment, contre le PSG.
Et Emre Can, hein, qui a signé également au Borussia pour solidifier la défense, qui était un petit peu le talon d'Achille. Justement du Borussia, messieurs.
Moi, Polo, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné, parce que forcément on regarde de plus en plus cette équipe de Dortmund. Mais c'est, est-ce que je dis bien son nom, mais Brandt.
Julian Brandt.
Franchement, mais aujourd'hui, je l'ai trouvé exceptionnel. Il sait tout faire, ce mec-là.
Bah, le problème, si tu veux, c'est que c'est un milieu offensif de formation qui a plutôt joué sur les ailes, notamment lors de son passage à Leverkusen, et qui aujourd'hui dépanne au poste de 6, parce qu'en fait, c'est lui qui prend la place de Delaney, qui est encore blessé. Il risque d'ailleurs de perdre sa place si Emre Can est positionné au poste de milieu défensif. Alors, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut faire attention entre le jeu en Bundesliga qui est porté vers l'avant, parce qu'on a quand même, on a quand même 5 joueurs à vocation offensive au départ, et encore, je parle pas des latéraux, Guerrero et Hakimi quand même, qui sont des sacrés pistons. Mais si tu veux, le problème c'est qu'il perd beaucoup de ballons au milieu de terrain. Alors ça s'est pas trop vu dans ce match-là. Il prend des risques. Le problème, c'est que si tu veux, quand tu vois la rapidité des Parisiens, qui peuvent se, la façon dont ils peuvent se projeter, ça risque d'être dangereux. Et c'est ce qui est arrivé contre Augsbourg lorsqu'ils ont été menés 3-1. Julian Brandt perd des ballons. Contre Cologne, c'est ça aussi un petit peu. Et lorsqu'on parle, on en discutait avec Pierre Ducrot il y a quelques jours. En fait, le problème, c'est pas de dire qu'il y a des, qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais défenseurs. C'est qu'il y a souvent un décalage de 30 mètres entre les deux milieux défensifs ou théoriques milieux défensifs, parce que c'est Witzel aussi qui est pas le plus mauvais ballon au pied. Et la défense centrale. Et ça, c'est un peu quelque chose qui me perturbe un petit peu. Ça fait partie du jeu du Borussia Dortmund qui est de toute façon porté vers l'avant. Donc, j'ai envie de dire, comme Marcel Reif, qui est un journaliste très connu en Allemagne, il dit l'équipe la plus fantastique d'Europe lorsque ça joue bien au ballon, c'est sûrement le Borussia Dortmund. Le problème, c'est quand ça ne marche pas, bon, on voit toutes les lacunes.
Ouais, l'équilibre est fragile encore.
Voilà, c'est ça.
T'as vu, on a attendu 5 minutes avant de parler de Haaland.
C'est très bien.
T'as vu ?
C'est très bien.
Mais on va parler quand même.
Ouais.
Parce qu'il a marqué un doublé ce soir, 7 buts en quoi, en 120 minutes grosso modo. Il est devenu le premier joueur de l'histoire des Bundesliga à inscrire 7 buts lors de ses 3 premiers matchs. Voilà, il a marqué 7 fois en 7 tirs cadrés.
C'est incroyable.
7 fois 7 tirs cadrés.
C'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux,
il a provoqué un penalty aussi, Paul.
Moyen et il provoque un penalty. Bon, il est assez généreux, mais mais il le provoque bien. Moi, c'est encore une fois ce qui m'a plu, c'est qu'il revient notamment sur le but de Witzel. Il revient aux 35 mètres pour chercher le ballon et pour faire l'avant-dernière passe, notamment en décalant Sancho. Donc, si tu veux, t'as presque l'impression qu'il est déjà complet entre guillemets à 19 ans. Il marque un très beau but pour son premier puisqu'il est très bien décalé au deuxième poteau. Il sort de nulle part alors que personne ne le voit. Enfin, il fait quand même 1m94. Hein. C'est pas le plus petit. Mmh. C'est un monstre physique, on le voit. Mais surtout, je le trouve techniquement largement au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire, si on dit qu'un Sancho est technique, on le voit, on le comprend. Si Marco Reus, par rapport à son gabarit est technique, on le comprend. Mais là, quand tu vois Haaland,
c'est ça qui est impressionnant. C'est sa mobilité.
Pour un mec d'un 1m94.
C'est son gabarit, sa qualité, quoi.
Sur le premier but, tu sais que la technique, c'est également l'intelligence du déplacement. Et cet appel contre appel là où il fait mine d'aller au premier poteau et hop il fait tout le tour et c'est lui qui est là à la réception de
c'est
ce bon
sens. C'est ça qui est vachement excitant avec lui, c'est qu'on sait pas jusqu'où il peut aller.
Mais le truc c'est que ce mec a 19 ans les gars.
Bah, c'est ça.
Il a 19 ans. Et s'il a encore une grosse marge de progression, ça va être quoi? Parce que là c'est déjà un mutant le gars.
C'est ce que Polo nous dit.
Il va devenir quoi à 24 ans, 25 ans?
C'est ce que Polo nous avait dit la semaine dernière. Polo, c'est que t'as l'impression qu'il nous disait qu'à l'entraînement il était très à l'écoute, qu'il cherchait toujours à s'améliorer.
Bah en fait Lucien Favre est super content. Alors on sait que Lucien Favre a parfois un peu de mal à sourire. Il aime pas trop parler individuellement des joueurs, mais là il dit j'ai rarement vu un joueur comme ça. Alors on le sait, la carrière de Lucien Favre, c'est quand même quelqu'un qui a lancé un nombre incroyable de joueurs aussi bien en Suisse qu'en Bundesliga. Et lorsqu'il parle de Haaland, il dit mais j'ai rarement vu quelqu'un comme ça. Déjà il dit c'est un gamin bien. Hein, on sait très bien les polémiques qu'il peut y avoir avec les jeunes aujourd'hui. Il dit, il écoute tout le temps, il veut apprendre. Dès qu'il rate un ballon à l'entraînement, il s'énerve, il motive les coéquipiers, etc. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? C'est pour un entraîneur. Maintenant, encore une fois, la seule chose qui pourrait peut-être m'embêter, c'est que cette équipe de Dortmund a presque envie de dire qu'il manque un ou deux joueurs pour en faire une grosse machine européenne. Et on sait très bien que Mais si tu veux, cet été, moi, je sais pas trop ce qui va se passer. Enfin, on peut le supposer. Tout le côté droit, Sancho, Hakimi, ça va être compliqué de les garder. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'ai l'impression parce que t'as toujours l'impression, tu vois, quand t'es dans le top 10 européen. T'es pas dans le top 5 européen et le top 5 européen fait son marché dans le top 10 européen et c'est un peu pénible.
Voilà pour le Borussia. Rendez-vous dans 17 jours pour ce 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Il y avait un duel également important entre le premier et le troisième. Leipzig recevait Mönchengladbach. Et là, Mönchengladbach a fait réaliser le coup du week-end.
Bah, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, Nico, parce que 5 Français au départ du terrain et un Mönchengladbach qui fait exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire Nagelsmann contre Rose, c'est pas compliqué, c'est Guardiola contre Klopp. Hein. Le premier des disciples de Klopp, c'est Marco Rose, c'est un de ses anciens joueurs à l'époque où il était à Mayence, et puis c'est l'école de Salzbourg aussi. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire que techniquement, Leipzig est sûrement supérieur à Mönchengladbach, mais le pressing ou le contre pressing qui a mis Mönchengladbach était impressionnant au début de rencontre. Ils ont utilisé toutes les faiblesses actuelles de Leipzig pour mener 2-0 et notamment par un très beau but de Pléa. Et puis Pléa, ben, il nous a fait un truc, il s'est pris un carton rouge à l'heure de jeu qui a changé toute la donne. Et ça a permis notamment grâce à un super pétron de Nkunku à la 89e d'égaliser à 2-2. Mais quand même, c'est la grosse information du week-end, c'est que Leipzig perd la tête de la Bundesliga puisque le Bayern l'a emporté logiquement.
Ouais, Polo, on le sait maintenant, le Bayern va être champion là.
Bah, le problème, c'est que Leipzig est vraiment en train de... Si tu veux, ils ont été...
Ils paniquent un peu là.
Là, j'ai l'impression qu'ils sont pas contents du tout. Enfin, ça va pas du tout. Nagelsmann, tu vois bien que ça va pas. Il a changé 2 joueurs à la mi-temps. Notamment, il a fait sortir Forsberg. Il a fait rentrer Schick. Il a fait rentrer Poulsen. Donc, il a mis que des attaquants devant, etc. Forsberg s'est retrouvé. Donc, Forsberg, théoriquement, c'est un titulaire indiscutable avec Sabitzer. Donc, c'est vraiment, si tu veux, la vieille garde qui est en train de se retrouver sur le banc. C'est un peu dommage.
Comment il se débrouille, Schick, à Leipzig?
Très très bien, 10 matchs si je raconte pas de bêtises, 5 buts, une passe et surtout j'ai l'inverse de ce que j'ai vu en Italie quoi.
Ouais, bah en Italie, il était très très fort à la Samp.
Ouais, c'est ça.
Et le problème c'est que il doit aller à la Juve mais il lui trouve un problème cardiaque qui fait que son transfert avorte et là sa carrière part un petit peu en cacahuète. Mais c'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire, qui est très fin techniquement. C'est pour ça c'est vraiment un joueur à suivre, je pense, s'il arrive à relancer sa carrière en Allemagne, ça peut redevenir un très bon joueur.
C'est intéressant parce qu'il était pas titulaire au début de la rencontre, il le fait rentrer à la mi-temps, il a vraiment apporté une plus-value. Moi je voudrais aussi parler un peu de Nkunku quand même qui m'impressionne de week-end après week-end et qui est en train si tu veux, quand t'as Sabitzer, Forsberg et Kunku, ça arrête pas de bouger, mais il joue plutôt sur le côté gauche, en fait.
D'accord.
Offensivement, okay. Oui. Et puis, ensuite, t'as Timo Werner, mais qui a été très moyen, d'ailleurs, sur ce match-là, qui a raté beaucoup de choses, même s'il est très rapide. Mais c'est vraiment, la belle plus-value, je trouve, pour le moment du terrain. Et puis, je voudrais juste rappeler quand même qu'il y a un jeune qui s'appelle Olmo, qui est rentré. Techniquement parlant, il est pas mauvais du tout. Moi, je l'avais vu au championnat d'Europe des U21.
Avec l'Espagne.
Voilà. Mais par contre, c'est friable. Quand je dis c'est friable, c'est pas défensivement. S'il y a eu un duel ou pas Mécano, d'ailleurs, et Thuram, qui était assez impressionnant. Mais, ils sont un peu trop faciles, quoi. Et en Bundesliga, dès que t'es facile, c'est pas bon. Parce que Mönchengladbach, ils
sont sanctionnés.
Ils impactent, quoi.
Merci, Polo.
Ciao,
merci,
Polo.
Merci beaucoup, monsieur.
Excellente soirée à toi. À très vite, bien sûr, dans l'after, à 17 jours de ce duel en 8e de finale de Ligue des Champions. Jacques et Julien Laurence. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Julien.
On zappe la case Liverpool 4-0 contre Southampton. On s'en fout.
Ouais, on s'en fout. Ils accentuent encore leur avance en tête du championnat.
C'est
avant
quoi,
le match de Manchester City
la
demain.
La série, c'est combien maintenant de matchs sans défaite, de victoires consécutives? Tu les as en tête?
Donc ça fait 42 matchs de suite en Première Ligue sans défaite maintenant. Le record est donc 49 d'Arsenal. Je crois que donc ça fait 24 victoires en 25 journées, ce qui encore
73
une fois,
points jamais... après 25 journées. C'est fou.
Et le record d'Arsenal qui pourrait être égalé contre City, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, date aussi où il pourrait être champion. En cas de victoire, s'ils gagnent tous leurs matchs entre aujourd'hui et le match de City le 4 ou 5 avril, ils seraient donc champions ce jour-là et pourraient égaler le record d'Arsenal. C'est assez incroyable et encore une fois, on se répète, mais sans forcément très bien jouer, notamment en première période où ils auraient pu être menés au score par une bonne équipe de Southampton. Ils s'en sortent grâce à Alisson et puis après ils font la différence en seconde période avec Salah, avec Firmino qui fait des passes DS, avec un Jordan Henderson qui joue peut-être à son meilleur niveau. C'est assez incroyable. Ouais. C'est un championnat qui marque encore, une machine incroyable.
Mais demain, il y aura aussi un choc entre City et Tottenham. Bref, je voulais qu'on parle avec toi de Leicester Chelsea. Score final de partout. Avec un Olivier Giroud pas dans le groupe. Alors oui, les fans de Giroud sont inquiets, depuis plusieurs mois, mais là, ça devient vraiment
pas compréhensible.
C'est quasiment terminé, là. C'est...
Franchement, moi,
je sais pas. Alors,
explique-nous, parce que moi, je comprends.
Il est pas dans le groupe.
C'est tartu, cette histoire.
Deux partout, score final, doublé de Rudiger. Hier, Lampard, en conf, tient des propos élogieux, à l'égard d'Olivier Giroud, en disant, c'est un homme et un professionnel absolument incroyable. Et aujourd'hui, paf, pas dans le groupe.
pas dans le groupe, mais juste avant de te laisser commencer. Et en plus, il fait même pas rentrer son remplaçant.
Tout à fait. Michy Batshuayi, lui aussi, qui est donc le numéro 2 dans la hiérarchie, on va dire, des avant-centres, derrière Tammy Abraham, qui lui est pourtant sorti en cours de match, j'allais dire, à la 83e minute, donc c'était assez tard dans la rencontre quand même. Lui qui était incertain, ça veut dire même quand Abraham est incertain, Lampard le fait quand même jouer titulaire pendant 83 minutes. Batshuayi reste sur le banc et Giroud à la maison. Le gros souci, c'est que le club avait promis entre guillemets à Giroud qu'il le laisserait partir puisqu'il n'avait pas assez de temps de jeu et que pour aller à l'Euro il lui faut plus de temps de jeu, sinon Didier Deschamps risque de le laisser à la maison. Le club avait semblé en tout cas comprendre ça, et pourtant à quelques jours de la fin du marché des transferts de janvier, ils lui ont expliqué que finalement, comme ils n'avaient pas recruté un autre attaquant, un Dries Mertens par exemple, un Edinson Cavani, les deux joueurs principaux qu'ils ont ciblés pendant ce mois de janvier, et ben comme ils avaient échoué dans leur quête de recruter un autre attaquant, ils étaient obligés de le garder.
Mais ils s'en servent pas. Pourquoi le garder? Pourquoi garder une troisième paire de pompes que tu mets jamais? Tu vois, il y a un truc comme ça, quoi.
On va être très clair. Est-ce qu'il va jouer?
Je vois pas personnellement. J'aimerais beaucoup qu'il joue, hein, sincèrement. Et je pense qu'il le mérite en plus parce que, comme l'a dit Lampard, il a été très professionnel du début à la fin. Pas simplement dans l'ère Lampard, mais depuis son arrivée au club en janvier 2018, depuis Arsenal, il a toujours fait preuve d'un professionnalisme parfait. Il a toujours été un bon coéquipier, même quand il a été laissé à la maison, même quand il était sur le banc sans entrer en jeu. Il s'est jamais plaint. Il a jamais pété un câble. Il s'est jamais ouvert de ça dans les jours ou quoi que ce soit. Il aurait pu rendre la vie du club beaucoup plus nuisible que ce qu'il a fait, et à aucun moment il l'a fait, et pourtant je vois pas ce qu'il pourrait changer maintenant par rapport à la première partie de saison qui ferait qu'il jouerait plus. C'est ça qui me dérange le plus.
Donc il va pas aller à l'Euro, les gars, on est d'accord.
Surtout, les blessures, quoi.
Surtout qu'il n'y a pas l'Europa League cette année.
Effectivement, il y a la Ligue des Champions, mais alors la Ligue des Champions, encore une fois, il a très peu joué dans la phase de poule, donc je vois pas pourquoi il la jouerait maintenant en phase élimination directe. Et il reste peut-être la Coupe d'Angleterre, et encore il n'a pas joué non plus cette saison. Et le pire, sincèrement, que Lampard apprécie son profil ou pas son profil, voilà, chacun ses goûts. Simplement, sincèrement, et en étant vraiment objectif, il a un profil qui aurait pu aider énormément Chelsea dans cette saison, pour l'instant, cette première partie de saison. Tous les matchs où ils ont perdu à domicile, Southampton, West Ham, Bournemouth, où ils se sont heurtés à des blocs très bas, où il y avait peu d'espace, où il y avait beaucoup de centres, mais personne pour reprendre le ballon de la tête, il aurait été parfait dans ce genre de scénario-là. Et même là, même dans ces conditions de jeu-là, il ne l'a jamais utilisé.
De toute façon, on en reparlera, Julien, mais les choix de Frank Lampard, ils commencent entre le gardien, entre Giroud, entre le fait qu'ils mettent Willian en pointe alors qu'il a Batshuayi sur le banc.
Pedro aujourd'hui.
Ouais, franchement.
Et Pedro aujourd'hui titulaire aussi, c'est très bizarre.
Moi, j'aime beaucoup l'entraîneur, mais là, en ce moment, ses choix, ils sont difficilement compréhensibles.
Voilà. Merci, Julien.
Ciao, Julien.
Merci,
Julien.
Merci, les gars.
Excellente soirée à toi. Merci, Jonathan. Merci, Kevin. Très bonne soirée à votre compagnie, évidemment. Demain, le retour de Gilbert Bribois à l'after. Et Bordeaux-Marseille, 21h.
Ouais,
bien sûr.
La fin de la malédiction.
Tremble, Bordeaux-Marseille. Au revoir.
RMC. L'afterfoot.
WW Weight Watchers Reimagined have a new customized weight loss program, MyWW, where no foods are off limit. Just fill out a simple assessment and get matched to a plan that suits you. You love eating carbs, cooking at home or eating out? No problem with this new customized plan. Discover which new MyWW plan can make losing weight easier for you. Join now and get 50% off your first 3 months. Offer ends 8th of February. Subscription fees and conditions apply. Mainland UK only. See website for details.